Good afternoon, everyone, and
bon après-midi à tous et merci à l'Institut Schiller de me donner l'opportunité de faire un discours aujourd'hui sur la situation de l'Union européenne et du système financier européen. Rapidement, avant de parler de l'état de l'économie européenne, laissez-moi dire quelques mots sur ce qui s'est passé vendredi avec le résultat surprise du référendum anglais sur leur adhésion à l'Union européenne. Comme je l'ai dit, le résultat était surprenant et de mon point de vue, c'était un message très très fort de la démocratie à l'Union européenne et aux institutions européennes. L'Union européenne a ignoré la volonté des peuples et des citoyens en forçant une politique d'intégration qui n'est pas la bonne manière pour l'Europe de coopérer. Et je me remémore en 2005 sur justement la constitution de l'Union européenne qui ont été bloquées par la France et les Pays-Bas. Et en 2008, le référendum en Irlande sur le traité de Lisbonne. Les institutions européennes ont décidé d'ignorer la voix des citoyens. Et voilà, le Brexit est le résultat de ces manques de vision politique pour une Europe unie, pour la coopération entre les pays européens. Je pense que c'est une très grande opportunité pour les pays européens de se rasseoir ensemble autour d'une table et d'affirmer et d'admettre de l'échec de ce projet de l'Union européenne et d'essayer de mettre en place tous ensemble un nouveau projet, un projet alternatif pour l'Europe, parce que l'Europe est différente de l'Union européenne, et je suis un très grand défenseur de l'Europe et de la citoyenneté européenne. Et de créer une alternative, un projet alternatif pour l'Europe qui va restaurer la croissance économique en Europe, qui va respecter les différences des pays européens qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, dans une vraie coopération, une Europe focussée, ou disons concentrée, sur l'économie réelle, sur les citoyens, les petites entreprises, et pas sur les besoins de la spéculation, de la finance et des grandes banques, comme c'est le cas de l'Union européenne aujourd'hui.
J'ai reçu
une bonne nouvelle juste il y a une heure. La Commission européenne, qui est responsable pour la régulation financière, avec des lobbyistes justement à Bruxelles, M. Jonathan Hill a démissionné en fait. Lui était le représentant des lobbies financiers à la Commission européenne. Donc ça va impliquer directement la politique économique de l'Union européenne et sa commission. Je vais essayer de présenter les statuts du système financier européen. Comme le dit ça le dit clairement, le système financier européen est en train de s'effondrer et il s'effondre à cause des mauvaises politiques menées par les gouvernements européens et par l'Union européenne en tant que telle. Après la crise de 2008, crise financière, l'Union européenne a décidé de se concentrer sur le mauvais problème. Et ils ont essayé de mettre en place des régulations financières sur le principe de limiter les conséquences de la crise. Et ce n'est pas du tout la bonne approche, selon moi, pour restaurer et garantir la stabilité, justement, du système financier. Si on veut un système bancaire, un système financier qui est sain, si on veut de la stabilité financière, on doit se concentrer sur la régulation à prévenir les crises financières et travailler sur la régulation sur les produits financiers des banques, c'est pas la bonne manière de faire, selon moi. On doit se concentrer sur les titres que possèdent les banques, sur les différents titres que possèdent les banques aujourd'hui. Et de cette manière, et l'Union européenne sur ce sujet a complètement échoué, et le projet de la banque, l'union bancaire a échoué. Laissez-moi parler le premier pilier du système bancaire. C'est un mécanisme de supervision pour tous ceux qui participent à l'union bancaire de tous les États membres de l'Union européenne. Donc d'avoir un bureau, c'est une branche de la Banque centrale européenne, c'est totalement à côté de la plaque. Et l'évidence de cela, c'est les stress tests, comme on dit, qui sont faites par la BCE, qui avaient été présentées par la BCE après 2014. Et alors, l'erreur dans leur analyse, dans leur approche de la BCE, et ils ont déclaré sur les risques de crédit qu'il y avait justement dans les feuilles de compte des banques européennes. Ils ont complètement échoué à exprimer justement l'exposition qui est problématique justement de ces titres financiers sur les marchés financiers de ces mêmes banques. Et ce qu'on appelle la régulation, donc c'est des titres financiers à effet de levier qui sont illiquides en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est parié sur un prix futur et dans les comptes des banques, par un système interne à la banque, par les mêmes banques justement qui défendent ce système financier, qui ont exclu justement la valeur de ces titres à effet de levier de leur compte en banque, de leur bilan. Et donc, ils n'ont pas pris en compte les risques, justement, de ces produits dérivés, justement, dans les banques européennes sur les marchés financiers internationaux. Donc, c'est l'erreur la plus... donc ça menace directement la stabilité du système bancaire européen. Et selon les analyses de la Banque centrale européenne et des stress tests, une banque très très importante de Sao Paulo en Italie, qui a des gros problèmes dans sa politique de crédit, ils ont pris donc des risques énormes. Mais dans cette banque, Intesa San Paolo, 80% de ses titres financiers sont connectés à l'économie réelle. Ils n'ont que 20% de ces titres financiers qui sont exposés sur les marchés financiers et la spéculation internationale. 80% est lié à l'économie réelle. Et selon la BCE, cette banque est très risquée. Contrairement à la Deutsche Bank, au BNP Paribas. Mais quand ils regardent le bilan de la Deutsche Bank et de BNP Paribas, la proportion dans les titres financiers est l'opposé. Donc on a 20% qui est lié à l'économie réelle et 80% au marché financier spéculatif, avec des effets de levier gigantesques. Mais selon la BCE, c'est la banque Sao Paulo qui est la plus risquée. Donc je pense qu'un système qui considère risqué justement cette banque de Sao Paulo en Italie et que la BNP et la Deutsche Bank ne sont pas risqués, ça engage la responsabilité du Conseil européen, de l'Union bancaire européenne et montre son échec et tous ses mécanismes de supervision échouent dans justement ses analyses sur le risque légal des banques dans les bilans des banques. Parce que ces banques sont trop grosses pour faire faillite, too big to fail, comme on dit, sont face à des milliards de pertes à cause de leur engagement sur les marchés financiers qu'ils de plus manipulent, marchés financiers que ces banques même manipulent. Ils manipulent les marchés des taux d'intérêt. Ils créent des titres financiers qui peuvent atteindre jusqu'à plusieurs milliards et qui menacent directement les bilans des comptes des banques européennes. Et personne n'ose, dans l'Union européenne, délibérément avouer et dire ça. Donc c'est des décisions politiques. Si on regarde ce qui se passe dans le système bancaire italien, c'est une évidence qu'il y a une inégalité de cette approche entre les banques. Les banques italiennes ont des problèmes, certes, liés à leur exposition justement sur leurs prêts aux entreprises, mais qui sont non performants. Donc ça crée des crises moindres avec des prêts qui sont moins performants dans une économie réelle pour les small and medium enterprises, donc les petites et les moyennes entreprises. Donc si un citoyen ne peut pas payer son emprunt immobilier ou son crédit hypothécaire, donc ça va souffrir, évidemment, les banques vont souffrir si tout ça est lié au marché international. Mais si l'économie n'est pas très active, donc on va expérimenter des problèmes justement dans le système, dans la politique de crédit des entreprises et justement donc pour les petites et moyennes entreprises. Mais c'est moindre. Donc cette crise est reliée à l'euro parce que la monnaie unique crée des gros déséquilibres macroéconomiques entre les pays européens. La zone euro n'est pas une monnaie optimalisée due aux contraintes restrictives de chaque pays et des différences qui sont très importantes entre les pays européens. Donc on ne peut pas définir cette zone euro, cette monnaie unique, de manière très claire. Donc ça, c'est un problème clair de l'euro. Donc la politique de l'Union européenne, ce qu'elle essaye de mettre en place pour faire que le système financier soit plus soit moins dangereux, c'est-à-dire une financiarisation encore plus importante, une politique de financiarisation qui avait proposée par l'ancien directeur de la Commission européenne. Ils ont dit, si on a besoin de restaurer la croissance dans l'Union européenne, on doit avoir plus de sécurisation justement de l'Union européenne, du Parlement européen. C'est un plan pour une standardisation de la sécurisation des achats et des ventes et des titres, mais qui ne servira strictement à rien, puisque rien n'est transparent aujourd'hui dans le système. Donc on ne pourra rien standardiser dans ce secteur des produits financiers. Si on utilise des produits dérivés, des CDO, des Credit Default Swap, et tout ça ne peut pas être contrôlé par un contrôle de supervision. Donc ce que nous proposons au Parlement européen et en Italie pour restaurer la croissance et la stabilité du système financier, le première étape serait, et on l'a proposé, d'introduire une résolution au Parlement italien et au Parlement européen dans justement la réforme bancaire, c'est de réinstaurer la séparation bancaire comme principe, mettre en place un système moderne, un Glass-Steagall européen moderne qui régulera le système bancaire de lui-même et qui permettra de faire la séparation entre le cœur d'une partie de la banque et la partie spéculative pour créer un système bancaire qui ne sera pas simplement concentré sur le système spéculatif, mais également sur les besoins de l'économie réelle, sur les besoins des gens. Et ça, c'est la première étape nécessaire. La deuxième étape, ce serait, concerne une des plus grandes banques, Monte dei Paschi di Siena, vous la connaissez tous maintenant, et la situation de cette banque. C'est la plus vieille banque d'Europe, et italienne évidemment, qui a été créée au 15e siècle, qui a été effective justement, qui a soutenu l'économie réelle au cours de l'histoire. Ils ont eu l'opportunité, le gouvernement italien a eu l'opportunité de prendre en charge cette banque et qui est vraiment en grande difficulté, mais ça, vous êtes au courant, et de faire de cette banque un exemple, un vrai exemple de ce que pourrait être fait, pourrait faire pour financer l'économie réelle. Donc, ce que nous proposons, c'est de renationaliser Banca Monte dei Paschi di Siena par le Trésor italien, qui est le premier actionnaire de cette banque, d'en faire le premier actionnaire de cette banque et de mettre en place une mission claire pour cette banque Monte dei Paschi di Siena, pour que cette banque se concentre exclusivement sur l'économie réelle. On n'autorisera pas du tout Monte dei Paschi a de faire des échanges sur les marchés financiers dans les produits dérivés. Mais ça, Monte dei Paschi sera simplement et uniquement d'opérer pour le crédit de soutien à l'économie réelle. Et je pense que cette proposition peut être un point tournant pour l'Europe, pour montrer ce qu'on peut faire. On doit faire plus, évidemment, dans le Parlement européen, et je pense que, j'espère, après Mr. Hill, on va justement sur la réforme bancaire qui va sur la réforme du Glass-Steagall, et que tous ces lobbyistes bloquent actuellement ce débat. En faisant du lobbying sur les commissaires européens, on va réussir à surpasser cet échec de l'Union européenne et amener enfin l'Europe encore à nouveau, justement, à redevenir un centre important entre les États-Unis d'Amérique et l'Asie. Et je pense que c'est une bonne manière pour l'Europe de restaurer sa croissance, la démocratie, et de jouer leur rôle en tant que citoyens européens et pour que les citoyens européens puissent jouer dans le scénario global. Merci beaucoup.